Bonjour à tous, à ceux qui viennent de près et à ceux qui viennent de loin. On a le plaisir d'avoir Mireille, la fille de Solange, avec nous. J'aimerais ce matin partager avec vous un texte de l'Écriture sur lequel je suis depuis plusieurs jours. C'est le psaume 139. Comment je fais ? Nicole, tu peux venir un instant ici ? C'est juste pour un service, hein, c'est pas... Je vais pas te demander de prêcher à ma place. Sauf si tu veux. Non, tu n'insistes pas. Bon, d'accord. Juste un instant. J'aimerais ce matin que nous arrêtions sur le psaume 139. Quand je le lisais, j'ai retrouvé un texte qui est intitulé « Une lettre de quelqu'un d'important ». Et c'est une lettre qui vous est adressée. Donc, je vais demander à Nicole, j'espère que j'ai assez d'enveloppes, hein, parce que j'ai grillé toute ma cargaison d'enveloppes hier. Et je vous demandais de garder cette lettre-là entre vos mains pendant la prédication. Et ensuite, on lira cette lettre qui vous est adressée. Tu vas bien distribuer une lettre par personne. J'espère que j'en ai fait assez. Gardez-le avec vous, simplement. Et puis, vous pourrez ensuite, on la lira, et puis vous pourrez aussi l'utiliser. C'est une lettre qui vous est adressée in extenso. J'aimerais lire avec vous ce psaume 139 et vraiment m'arrêter avec vous sur ce passage de l'Écriture. Psaume 139, au chef des chœurs, psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je, loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà des mers, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Homme de sang, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière infâme, ils prennent ton nom en vain, eux, tes adversaires. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite. Ils sont devenus pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est psaume 139 est considéré comme un psaume très particulier dans le livre des psaumes. Il fait partie d'un groupe de psaumes entre le 138 et le 145 qui semble former un ensemble. Et c'est un psaume qui a toujours eu une place particulière dans le judaïsme, mais aussi dans la foi chrétienne, comme un psaume puissant, fort. Il y avait au XIe siècle un rabbin qui s'appelle Aben Ezra. Il est né en Espagne, et puis il est devenu une autorité. C'est un de ces hommes que j'admire, vous savez, ces hommes qui cumulent des dons. Il y en a. Il y a des hommes comme ça, vous savez, des génies comme Léonard de Vinci, et puis d'autres, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui était Erasme de Rotterdam au moment de la Réforme, un homme qui défendait le catholicisme, mais qui était doué au-delà de toute mesure. Eh bien, le rabbin Aben Ezra, au début du XIe siècle, il était cela, il était philosophe, il était mathématicien, il était grammairien, il a laissé des œuvres monumentales en termes de pensée, et puis il a visité tout le bassin méditerranéen, et il est venu s'installer à un moment donné en France, dans le sud de la France, et puis il a quasiment terminé sa vie dans le nord de la France. Bon, c'est là que je comprends pas. Là. Je me dis, quand tu habites en Provence, venir mourir dans le nord de la France, bon, il avait dû perdre un petit peu la raison, je sais pas. C'est un Normand qui vous dit ça. Hein. Et le rabbin Aben Ezra disait que ce psaume 139 était le psaume le plus excellent de tous. Il disait qu'on y retrouve toutes les perfections admirables de Dieu, sa toute puissance, mais aussi son omniscience, sa présence en toutes choses. Et il y a une manière de présenter Dieu dans ce psaume qui est saisissante, avec des expressions très poétiques. Par exemple, André Chouraki, dans sa traduction du psaume 139, il dira, par rapport au fait que nous soyons créés, à un moment donné, il dit... J'ai été, la traduction que nous avons, c'est au verset 15, « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Et André Chouraki traduit, au lieu de « tissé dans les profondeurs », il disait « brodé dans les cryptes des profondeurs ». Moi, j'aime ça. Me dire « j'ai été tissé, brodé », parce que tisser, c'est une chose. Hein. On imagine le métier à tisser avec la navette qui passe, mais brodé, fil à fil, avec des perles, etc. J'ai été brodé dans la crypte des profondeurs. Dieu m'a imaginé. C'est un des psaumes les plus beaux qui soient et les plus profonds sur la présentation de ce que Dieu est et ce que l'homme est aux yeux de Dieu. Ce psaume, notamment Aben Ezra, mais d'autres commentateurs hébraïques et chrétiens, ont pensé que ce psaume David a été composé à un moment particulier où David avait besoin de trouver pour lui-même, dans la foi, la toute-puissance, mais l'omniscience de Dieu, un secours contre les persécutions. Et en fait, beaucoup de commentateurs mettent ce psaume-là en rapport avec cette période où son fils Absalom a essayé de le renverser, l'a pourchassé pour le tuer. Et il y a ce récit du deuxième livre de Samuel, chapitre 16, versets 6 à 8, où il traverse une bourgade. Et à ce moment-là, vous avez un homme qui s'appelle Shimaï. Et Shimaï marche le long du cortège ou de la troupe du roi David et de ses quelques hommes d'armes qui lui sont restés fidèles. Et à ce moment-là, Shimaï lui dit « Mais jamais, tu es un chien, tu ne vois rien, et puis tu es le contraire d'un roi, et puis heureusement qu'il y a Absalom, et puis il lui jette des pierres, etc. Et puis il y a un de ses capitaines qui dit, mais attends, moi je vais prendre mon épée, je vais lui couper la tête à celui-là. Et puis David dit non, laisse-le faire, parce que s'il agit ainsi, c'est que Dieu le permet. Et si Dieu le permet, c'est sans doute que je n'ai pas été fidèle et que je n'ai pas compris sa pensée. Et pour le rabbin Aben Ezra, au Xe siècle, disait, ce psaume 139, c'est dans ce moment de détresse, de souffrance, d'abandon, de sentiment de perte de David, que David l'a écrit. Et certains disent, c'est un psaume à la fois de reconnaissance, mais de reconnaissance. C'est-à-dire à la fois reconnaissance par rapport à la compréhension que David découvre. Il faut imaginer dans ce moment de détresse et de souffrance ce roi qui est rejeté, qui a perdu sa royauté quasiment et qui est capable d'écrire des paroles aussi belles à la fois sur Dieu mais sur lui-même. Alors on dit c'est un psaume de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Je reconnais Dieu. C'est pas simplement reconnaissance. Je suis content de ce qu'il a fait pour moi. Mais je le reconnais comme il est. Et sans doute y a-t-il pour nous aussi ce chemin à faire d'être dans une attitude de reconnaissance. Alors, reconnaissance, on sait ce que ça veut dire, c'est dire merci. Hein. Je suis reconnaissant. Cette semaine, on a eu une réunion de prière où nous avons été reconnaissants parce que on a deux amis, deux familles pastorales qui ont été éprouvées. Jacques Vasseur, qui est le premier pasteur que j'ai rencontré dans une église quand j'avais 15 ans et qui animait le groupe de jeunes et qui a été hospitalisé pour des problèmes cardiaques majeurs. Et puis, il est tellement âgé maintenant, avec une santé fragile, je me suis dit, il faut se préparer à... Et puis, lundi soir, il y a la femme du pasteur de Nevers qui était dans une réunion et s'est écroulé, et là aussi crise cardiaque et hospitalisé en urgence dans un état plus que sérieux. Et puis finalement Dieu est intervenu, Dieu a agi, et les deux se sont relevés. Le lendemain on a eu un mail de la femme de Jacques qui disait il rentre à la maison, ils lui ont mis un pacemaker, c'est reparti. Moi, j'étais là, j'ai dit, avant, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, guéris-le, relève-le, mais du bout des lèvres, en me disant, mais fais ta volonté, parce que je me disais, on doit être au bout du chemin. Et Dieu est intervenu. Carole, la femme de Jean-Paul Maronnier, le pasteur de Nevers, de Fourchambault, Jean-Paul nous expliquait qu'il a été appelé au travail. Il travaille dans une compagnie de pompes funèbres, et on lui avait dit que sa femme était allée être évacuée par les pompiers, et quand les pompiers sont venus, ils ont constaté son état, ils ont dit là il y a 3% de possibilité qu'elle puisse s'en sortir vu les signes cliniques, les indicateurs, etc. Et 3%, c'est pas beaucoup, 3%. Et elle a été hospitalisée, et en fait, au moment où les pompiers, il y a un des pompiers qui était là, il a constaté que Carole se battait pour respirer. Et dit, tiens, ça, normalement, vu la situation, normalement, le pompier disait... généralement, les gens se laissent aller et partent. Et donc, elle a été évacuée, elle s'est battue. Et les signes vitaux sont revenus à la normale pendant la nuit et le lendemain matin. Ils l'ont laissée dans le coma pendant quelque temps pour qu'elle puisse récupérer. Le lendemain matin, Jean-Paul est allé au travail et il a dit à ses collègues, je suis désolé, mais je vais devoir... m'absenter quelques jours, ma femme a eu un gros problème, et un de ses collègues qui était là dit, comment ça, elle a eu un problème? Il dit, oui, elle était en réunion et elle est tombée avec un problème majeur au niveau cardiaque. Et le collègue lui dit, ah bon, c'est ta femme? Il dit, oui, pourquoi? Il dit, moi, je suis le pompier volontaire qui était à côté d'elle hier quand elle est tombée et qui a constaté qu'elle se battait pour revenir Et j'ai été stupéfait de voir comment elle est revenue dans ces dernières heures. C'est vraiment un vrai miracle. Il n'est pas croyant, hein, mais il a constaté cela. On a fait monter des actions de grâce. On a dit merci. La reconnaissance, c'est pas seulement dire merci, c'est reconnaître l'autre en ce qu'il est. Et en l'occurrence, le psaume 139, c'est un psaume qui reconnaît qui est Dieu. Et je vous invite à le lire et à le relire. Et peut-être que ce temps de partage de ce matin fera que vous aurez envie, cette semaine, de le lire et de le relire pour reconnaître qui est Dieu. Mais ce psaume, c'est aussi un psaume de reconnaissance de ce que je suis. Reconnaître qui est Dieu est une chose, mais savoir qui je suis au regard de Dieu. En quoi le Saint-Esprit peut me permettre de me reconnaître. C'est aussi ce que ce psaume nous propose. C'est un psaume de 24 versets. Dans la réalité, il y en a 22 dans la forme hébraïque. Et c'est un psaume qui a cette caractéristique d'être un psaume alphabétique. C'est-à-dire que chaque verset commence par le Aleph, Bet, Gimel. Donc A, B, C, D pour nous, c'est-à-dire par chaque lettre de l'alphabet. C'est un psaume qui est utilisé pour apprendre à compter aux enfants, parce que les lettres en hébreu, ce sont aussi des chiffres. Et donc les enfants apprennent à compter en récitant les psaumes alphabétiques, dont le psaume 139. Moi, je trouve que c'est génial d'apprendre à compter en disant « Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. » Un enfant qui apprend à compter de cette manière-là, c'est pas mal, alors que nous, c'était 1, 2, 3, 4. Donc, c'est un psaume alphanumérique, on va dire. Et il commence avec la première lettre. Alors, ce psaume, je ne sais pas si vous avez un titre, mais souvent, on donne des titres aux psaumes. Et le psaume 139, il a eu certaines traductions qui lui ont attribué un titre. Il y a Stan Rougier qui a fait un travail de variation sur les psaumes et qui a donné ce titre, c'est « Comment me séparer de toi ?» Je trouve que c'est un titre assez original. Comment ? Parce que c'est ça, hein. À un moment donné, on dit « Où irais-je loin de ton esprit ? Où fuirais-je loin ?» Et c'est un psaume où l'homme essaye de mettre de la distance avec Dieu. Et donc, il a dit « Ce psaume, c'est « Comment je pourrais me séparer de toi ?» Et puis, il y en a un autre qui a dit, dans la Nouvelle Bible Sommaire, je crois que le titre c'est « Tu me connais parfaitement ». Ça, c'est un beau titre aussi. Avoir cette assurance que Dieu me connaît. Hier, on parlait avec une jeune amie qui a des difficultés à avoir des amis. Et du coup, on lui a dit, mais avoir des amis, avoir des proches, on en a. Dans l'église, on a des frères, des sœurs, mais des vrais amis. Un ami ou des amis. En général, on n'a pas tant que ça d'amis, si on regarde bien. Hein? Quand on dit, oui, mais toute l'église, ce sont tous mes amis. Non, on est des frères, des sœurs, des relations, mais des amis, des personnes sur lesquelles, vis-à-vis desquelles, on est prêt à s'ouvrir totalement, à être soi. Bah, parfois, on en a 2, 3, 4, 5, en général, moins d'une dizaine, des hommes et des femmes qui me connaissent et avec lesquels je peux être ce que je suis. Eh bien, il est dit, par exemple, que Dieu me connaît parfaitement. C'est dans ce sens-là qu'il peut être notre ami. Il me connaît. Et mon désir, c'est de le connaître. Et ce qu'on verra dans la manière dont il est écrit dans le psaume 139 du regard de Dieu sur moi, c'est que autant je peux essayer de cacher ce que je suis à mes proches. Ben ouais, mais bien sûr. Vous ne savez pas comment je suis dans la réalité. Il n'y a que ma meilleure amie qui le sait. Elle s'appelle Francine et vit avec moi. Heureusement, elle a un devoir de réserve. C'était au bas du contrat de mariage. Tu ne diras pas aux autres ce que tu apprendras. Mais Dieu me connaît. Rien ne lui est caché. Et vous savez quoi ? C'est ça qui m'étonne dans l'amour de Dieu. Il me connaît parfaitement. Il sait tout de moi. Et pourtant, il m'aime. Il m'aime. C'est ça, la vraie relation d'amour et d'amitié. Tu me connais parfaitement. Il y a des livres que j'aime bien pour travailler sur l'écriture, c'est les cahiers évangiles. C'est une série depuis 40-50 ans qui sont édités par des maisons, par le CERF, donc édition catholique, mais qui sont vraiment des outils passionnants à utiliser pour apprendre à connaître l'écriture. Moi, j'en ai quelques dizaines. Michel, peut-être encore le double de moi, mais c'est des bons outils. Et dans les cahiers évangiles, il classe ce psaume dans les psaumes de l'hôte du Seigneur, avec 11 autres psaumes. Ça veut dire quoi ? Les psaumes de l'hôte du Seigneur. Un hôte, c'est quelqu'un qu'on reçoit chez soi. Et ils disent, le psaume 139, c'est un psaume, un des 12 psaumes de l'hôte du Seigneur. Je suis invité à entrer chez lui, à y être invité. On a eu notre première réunion de Terre d'Oasis. On est devenu l'hôte de Pascal et Patricia. Francine, j'étais l'hôte, mais je n'ai pas payé ma pizza, si tu peux y penser. Mais on a été accueillis, on était bien, on a travaillé. Et puis, on a été reçus, j'ai presque... Voilà. Comme de vrais hôtes, on a pris soin de nous. Eh bien, Dieu veut faire la même chose pour chacun d'entre nous. Alors, ce psaume, il a 4 parties. La première partie, c'est du verset 1 au verset 6. La deuxième partie, c'est du verset 7 au verset 12. La troisième, c'est du verset 13 au verset 18. Et la dernière, qui est peut-être un peu une partie étrange pour nous, c'est le verset 19 au verset 24. Et j'aimerais juste aborder la découverte de ce psaume avec chaque partie, et puis vous laisser ensuite travailler ou cheminer ou relire ce psaume-là chez vous. La première partie, elle est précédée par une introduction, et cette introduction, c'est « Au chef des corps, psaume de David ». Alors, j'aime beaucoup cette introduction-là, on me dirait, il n'y a rien d'extraordinaire. « Au chef des corps », c'est pour dire à Hervé, « Bon, voilà comment on va chanter ce chant ». C'est pas une introduction, c'est technique, hein. Vous avez vu, ce matin, Michel a fait fort, il nous a imposé 2 chants qu'on ne connaissait pas. Et donc, à un moment donné, on était que tous les deux, j'ai dit, attends qu'Hervé arrive. Faut que le chef de chœur soit là pour savoir qu'est-ce que ça veut dire ce signe-là sur la portée et où on part, où on s'arrête. Au chef des chœurs. Sauf que, au chef des chœurs, en hébreu, ça se dit, la menat sehar. Et c'est une indication qu'on retrouve dans 54 psaumes sur 150. La menat sehar, au chef des chœurs. Mais cette traduction, ça peut aussi se traduire au chef d'orchestre, au chef des chantres, mais ça peut dire à celui qui est courageux, à celui qui est victorieux. T'as entendu, Hervé ? Hein ? Chef des chœurs, c'est à celui qui est courageux. Mais je sais bien qu'il t'en faut du courage. Mais ça veut dire aussi, c'est une traduction, le chef de chœur, c'est celui qui est victorieux pour amener la louange à s'élever tel que Dieu le souhaite. Et moi, je trouve que cette traduction sur un tiers des psaumes, la menatsehar, au victorieux, moi j'aime bien cette traduction, ça veut dire aussi que ma lecture de ce texte qui m'est donné, un peu comme cette enveloppe qui est sur vos genoux ou entre vos mains, c'est afin que je devienne victorieux dans ma vie. C'est la pensée de Dieu. Sa parole n'est pas autre chose que poser là, donner, apporter, pour que je devienne victorieux de ce qui est posé en moi depuis la chute originelle qui m'a séparé de Dieu, pour que je redevienne victorieux en Christ. Alors, la menat sehar, ça veut dire exceller, être brillant, être prééminent, et puis être persévérant et opiniâtre. Ouais. Être persévérant. On verra que ça transparaît tout au long de ce psaume. Alors, la première partie, je vous disais, c'est versets 1 à 6. Ça commence par « Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, etc. » On l'a lu. Je ne vais pas vous le relire. Et si on devait qualifier cette première partie, on dirait que c'est la partie où David proclame que Dieu connaît l'homme. Il connaît David. Connaître. Le verbe « connaître » dans la Bible, depuis le livre de la Genèse, c'est pas un verbe, c'est pas « oh, je te connais bien, toi ». Non, c'est connaître en profondeur. C'est même, quand il est parlé d'Adam qui a connu sa femme, c'est une connaissance charnelle, intime. Eh bien, j'ai envie de dire que la connaissance de Dieu pour David et vis-à-vis de l'homme et de la femme, c'est une connaissance d'intimité. Le psalmiste, ici David, considère qu'il est l'objet de la part du Seigneur d'un contrôle de tous les instants. Quand vous lisez ces six premiers versets, vous dites, il est un petit peu fliqué, David. Hein? Attends, tu me sondes, tu me connais. On va y revenir. Et après, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu comprends mes pensées, tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche, tu pénètes toutes mes voix. J'ai pas encore parlé, que tu sais déjà ce que je vais dire. Tu m'entoures derrière, devant, au-dessus. Et il termine cette partie-là. Une telle science est trop merveilleuse pour moi. Moi, j'ai envie de dire, ça me fait flipper. Vous imaginez? Si votre mari, votre femme vous disait, tu sais, je te surveille, hein. J'ai mis une puce dans ton portable, je sais où tu étais à telle heure, tel jour, à tel endroit, j'ai regardé tes messages. On dit, oula, hein. Mais le premier réflexe de cette lecture, c'est de dire, on a un Dieu qui est présent en permanence. Ce n'est pas une surveillance pour nous écraser, pour nous enfermer. C'est une attention de tous les instants. C'est un amour qui est présent autour de l'homme. Il n'y a pas un instant où le regard de Dieu est éloigné de ce que nous sommes. Il est dit au verset 5, « Tu me serres de près », qui est aussi traduit dans certaines versions par « Tu m'assièges ». Je ne sais pas si on a envie d'être assiégé. Si quelqu'un qui nous aime dit « Je vais t'assiéger », non, non, c'est une manière de dire, non pas que Dieu veut générer un sentiment d'oppression vis-à-vis de nous en disant « Oh là, je suis sous le microscope de Dieu et rien ne va lui échapper ». Ça serait, j'ai envie de dire, une bien piètre image de l'alliance que Dieu fait avec l'être humain. Je veux être à tes côtés, je veux être présent, même plus que cela qu'à tes côtés, je veux être en toi. La présence du Saint-Esprit en nous, il n'y a rien de plus intime. En nous, pas à côté. Jésus a marché à côté. Là, une fois que le moment de Pentecôte est arrivé, le Saint-Esprit vient en nous. Et là, il y a une relation de proximité. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Ces deux verbes, c'est shakar et yada, et c'est vraiment... Tu me sondes, c'est tu entres au plus profond de moi pour savoir ce que je suis, pour répondre à mes besoins. Dieu n'est pas dans une connaissance à distance. Il est vraiment un Dieu qui dit, je veux être au plus proche de toi. Je veux pouvoir sonder ton être, mais sans le violer. Ça veut dire qu'il ne sonde et ne me connaît que dans la limite où je le lui permets. Dans les vies familiales, on sait poser des limites à nos enfants, parfois à nos conjoints, pour qu'on garde nos prés carrés, nos jardins secrets, nos territoires personnels, et parfois en dépit de l'autre. Ce que Dieu veut, c'est à un moment donné, que nous acceptions, comme il est dit dans l'Apocalypse, que nous ouvrions la porte et que nous le laissions rentrer. Vous savez, recevoir un ami sur le pas de porte, ça se fait. Quand c'est une visite impromptue, etc., quand on n'a pas fait le ménage derrière, on se dit, bon, on entrouvre la porte, et « Ah, c'est toi !»« Ah, écoute, je suis occupé, donc... » Et hop, je vois qu'il y a des sourires, hein. Il y a des sœurs qui disent « Ouais, ça me fait penser à tel moment !» Hein ? Mais Jésus dit « Je frappe celui qui ouvre et me fait rentrer, quel que soit l'état. » Hier, je recevais deux personnes, donc... hier matin, j'ai passé la serpillière, l'aspirateur et tout pour pouvoir accueillir à peu près bien, quoi. Mais Dieu ne nous demande pas qu'on fasse du ménage dans notre vie pour l'accueillir. Il veut que nous puissions l'accueillir afin qu'avec nous, il puisse faire du ménage dans notre existence. Je lisais un livre qui, avec humour, traitait de cette manière de faire, vous savez, où... parfois, quand on accueille les autres, on prépare les choses à l'excès. Moi, quand ma femme travaillait, un jour, elle m'a dit, écoute, est-ce qu'on pourrait prendre une femme de ménage pendant 2 heures, parce que je travaille, je rentre. Je dis, oui, on peut le faire. Et puis, quand on a embauché une femme de ménage, à un moment donné, j'ai vu ma femme et je dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle était en train de nettoyer l'évier, de ranger la vaisselle, de éventuellement passer le balai, l'aspirateur. Et je lui disais, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit, je vais quand même pas laisser la maison en désordre quand la femme de ménage arrive. Je dis, mais alors ça sert à quoi? Je pense que c'est les épouses suisses. En France, on fait pas ça. Hein. Non? Et j'ai l'impression que parfois avec le Seigneur, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on se dit, on va faire le ménage nous, alors que lui, il veut rentrer afin que notre vie soit transformée, afin que le Saint-Esprit accomplisse son œuvre. Et nous, on est en train de bricoler, on dit, on va épousseter ça, on va faire briller ça, etc. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Jésus dit, je frappe, accueille-moi, et là, je mangerai avec toi. Et c'est moi, avec toi, qui accomplirai mon œuvre de sanctification. Tu me sondes et tu me connais. Connaître et être connu. Ne plus avoir rien de caché pour l'autre, pour soi-même, être dans la transparence. Est-ce que c'est possible? On sait bien que c'est très relatif. Y compris dans le plus haut degré d'intimité d'une famille entre deux conjoints. C'est souhaitable qu'on arrive à un moment donné où on puisse être transparent, ne pas avoir peur du regard de l'autre en se révélant, en se montrant. Mais si je prends l'homme, par exemple, dans le couple, ce n'est pas évident pour l'homme de montrer ou d'accepter de dire ses fragilités à sa compagne. Les femmes ont plus de facilité. Ce n'est pas une crainte qu'elles ont. Si je dis à mon mari mes fragilités, j'ai pas peur du rejet, du jugement, mais les hommes, du fait de cette nécessité d'être un homme ou de l'image que l'on a d'être un homme, vont avoir plus de mal à être transparents et à dire leur fragilité. Est-ce que l'enjeu de se connaître vraiment n'est pas un enjeu d'amour profond, vrai et qui construit? Il y a un chemin à vivre. Et c'est le même chemin que nous avons à vivre aussi vis-à-vis du Seigneur. Je n'ai pas de peur à avoir à être transparent pour qu'il me connaisse et que je le laisse me connaître. Il me connaît. En plus, c'est ce que dit David. Tu me sondes, tu me connais. Donc, pourquoi je vais faire semblant ou je vais être réticent à m'ouvrir et à me révéler dans ce que je suis par rapport au Seigneur? C'est son amour qui veut me rencontrer. C'est le travail de résilience, de guérison qu'il veut accomplir en moi. Connaître. Je suis le bon berger, dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Il y a un travail de connaissance mutuelle que Christ évoque dans l'évangile en disant « Voilà la relation que je veux établir avec mes enfants. » Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Il se donne afin que nous puissions le connaître et connaître le Père. Connaître l'autre, c'est prendre le risque de l'aimer. Être connu de l'autre, c'est prendre le risque d'être aimé. La connaissance vraie, réelle, c'est un risque. Mais quand cette connaissance est sous-tendue par l'amour, ce risque devient caduque. Je n'ai pas de peur à avoir à me laisser connaître par Dieu. Alors, tu me connais. La relation de confiance nécessaire pour se laisser connaître, c'est avoir confiance dans l'amour de l'autre. Parfois, vous entendez cela dans les témoignages des journaux télévisés quand un homme ou une femme a fait quelque chose d'étonnant, de choquant, etc. Et vous avez les gens à côté, parfois de la famille, parfois... Je ne le connaissais pas. Il était tellement gentil, il était tellement ceci, il était tellement cela. Je ne le connaissais pas. Est-ce que c'est aussi le témoignage que Dieu peut dire de nous? Je ne te connais pas tel que tu es. Tu ne te laisses pas rencontrer. Tu sais, quand je m'assieds, quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Le verset 2. Quand on lit cela, on se rend compte que Dieu connaît à la fois nos actions et nos pensées. En fait, en psychologie, on s'attarde sur le fait que les pensées précèdent les actions. Sauf cas exceptionnel, quand on est, victime de TOC. Là, on ne contrôle pas, les actions se mettent en place sans qu'on s'en rende compte. Mais en général, on pense d'abord, on agit ensuite. Ça veut dire que Dieu connaît les motivations de nos pensées. Quand je m'assieds, quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. C'est un verset qui dit, Dieu sait quelle est la motivation derrière le fait que tu t'assieds ou tu te lèves. Quand tu agis de telle ou telle manière, il ne voit pas, il ne connaît pas simplement tes actions, il connaît les motivations qui sont derrière tes actions. Et ça, c'est quand même gênant. Non ? Hein ? Que les gens soient conscients de nos actions. Mais qu'ils soient conscients et connaissants nos motivations, waouh ! Là, ça va loin. Mais Dieu, quand David dit cela, il a cette révélation que le Dieu qu'il aime ne sait pas simplement ce qu'il fait, mais les motivations qu'il sous-tend. Qu'est-ce qui fait que tu agis de telle ou telle manière, que tu te comportes de telle manière ? Alors les autres le voient, ils voient la surface de l'iceberg, la partie émergée. Mais Dieu connaît ce qu'il y a en dessous, ce qui sous-tend ta manière d'être, ma manière d'être. Mes buts, mes pensées. Le lien entre les deux indique combien nos pensées ne sont jamais avec des objectifs imprécis, mais on poursuit. Toutes nos actions sont en général cohérentes, même si ça échappe aux autres. L'homme, est-il dit, est la seule créature de Dieu qui est dotée d'une pensée autonome, non dictée par son seul instinct de survie, mais une pensée qui dirige nos actes que nous n'interrogeons pas ou peu. Savoir quelles sont les motivations. Et l'Écriture nous montre combien l'homme est interpellé par Dieu pour s'interroger sur ce qu'il motive. C'est quoi ton but ? Même le fait de s'asseoir, quand on s'assoit et qu'on se dit « je ne veux plus bouger, je reste là », c'est que derrière ma pensée, il y a une motivation à ne plus bouger, à ne pas me lever pour marcher avec Dieu, à ne pas aller plus loin. Lorsque Paul parle aux Romains, il leur dit « ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et parfois, Dieu veut qu'on s'assoie. Et puis nous, on pense qu'à marcher. Et parfois, Dieu voudrait qu'on se mette en route. Et on pense qu'à s'asseoir et à rester là où on est. C'est quoi ma motivation par rapport au Seigneur ? car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. » Il est intéressant que David évoque la parole, car il y a bien une action qui est soumise à la pensée de l'homme, mais qui est souvent si mal maîtrisée, la parole de l'homme. On pourrait dire que la parole de l'homme a causé beaucoup plus de dégâts que bien des actes. Et quand j'ouvre et que j'écoute le journal télévisé, que j'entends les grands dirigeants du monde parler, waouh ! Je suis sidéré par les motivations qui sont derrière. J'écoutais l'explication de pourquoi il est bon pour un certain dirigeant d'augmenter les taxes douanières. Et le journaliste, avec beaucoup d'à-propos, révélait toutes les motivations qui sont derrière. Ce n'est pas simplement pour gagner plus d'argent par rapport au produit, c'est pour avoir un moyen de pression, etc. Et il a décortiqué tout ça, je dis, dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Et nous serons tous tributaires de ces paroles-là. On les subira, bon gré mal gré, mais on subira les effets de cela. On achètera certains produits plus chers. Heureusement, il y a des bons magasins qui font des bons prix. Je vous en montrerai quelques-uns. Les paroles. La deuxième partie de ce psaume, c'est « Où fuir Dieu ?». Je ferai que ces deux premières parties, et je ne ferai pas juste un petit survol rapide des trois à quatrième, mais parce que, et je ne ferai pas une deuxième prédication, je vous laisserai ensuite peut-être découvrir ce psaume. Mais la deuxième, c'est « Où fuir Dieu ? Où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche, etc. » Et en fait, cette deuxième partie, c'est « Comment je peux faire pour échapper au regard de Dieu ?» Et lorsque le psalmiste, en l'occurrence David, écrit ces mots, il dit, c'est quelque chose d'étonnant d'avoir un Dieu dont je voudrais parfois me libérer. Je voudrais partir plus loin. J'ai été étonné ce matin dans les prières et dans les interventions des uns et des autres. Plusieurs ont parlé des ténèbres et du fait d'être confronté à la lumière de Dieu. Cette partie-là parle éminemment de cela. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. Eh oui, je suis la lumière et la vie. Là où Christ est, même au plus profond des ténèbres, c'est la lumière qui vient avec Christ. Je gravis les cieux, te voici. Verset 8. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. J'aime beaucoup ce verset parce que, en fait, fuir Dieu, c'est vraiment essayer de fuir la vie. Quand il est dit par David, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Faire le choix de fuir la pensée de Dieu, c'est choisir la mort. C'est ce que nous enseigne le livre de la Genèse avec le récit de la chute de l'homme. Il a le choix entre rester dans l'obéissance, la proximité de Dieu, la relation et l'intimité, et d'apprendre de Dieu ce qui est bien et mal. Nous faisons, l'homme et la femme, le choix de nous séparer de lui, d'être dans la capacité personnelle de l'ego humain, de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est cela qui a introduit la mort dans la création. Mort pour l'homme, pour la création tout entière, y compris pour la nature. Faire le choix de Dieu, essayer de prendre, de chercher à se séparer de lui, c'est faire ce choix de la mort. Et si je monte aux cieux, tu y es. On se dit, tiens, mais alors il est en train de dire qu'il veut monter au ciel pour rencontrer... Non ! C'est un symbole pour dire, si je cherche à rejoindre Dieu, c'est-à-dire à me mettre à son niveau, et on retrouve la parole que l'adversaire dit à Adam et Ève, il sait bien que si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Si je monte aux cieux, si j'essaye d'atteindre ta hauteur, ben tu y es, mais tu es quand même au-dessus de moi. Si je cherche à rejoindre Dieu, voire à prendre sa place, il y a un écriteau dans le ciel où il est écrit « La place est prise ». Fais tout ce que tu veux. Tente tout ce que tu veux par tes efforts. Tu ne pourras jamais prendre la place du Créateur. C'est une démarche paradoxale pour quelqu'un qui veut éviter Dieu, le fuir, que d'essayer de monter au ciel. Mais juste après, elle dit « Mais même si je descendrai au séjour des morts, t'y voilà. Parce que même là, Dieu est souverain. » Et ça me fait penser à ce passage où il dit que Christ descendit aux enfers. Je dis, c'est toujours été un texte qui m'allait laisser un grand point d'interrogation sur le sens que cela avait d'aller prêcher aux morts. Les morts sont morts, donc a priori, ils ne peuvent pas se convertir. C'est toujours un texte qui me laisse dubitatif au niveau théologique. Mais néanmoins, Dieu est Dieu où qu'il soit, et même au plus profond des ténèbres, même dans l'enfer et la mort, il demeure souverain. C'est ce qui fait aussi que si tu considères que tu es mort, que ce que tu vis est mort et définitif, alors je t'affirme comme David le dit que même là, Dieu est présent. Je parlais avec quelqu'un ces derniers jours, qui disait, mais pour moi c'est définitif ça, je ne serai plus jamais cela, je ne pourrai plus, c'est terminé, c'est fini, à cause de ce que j'ai vécu, etc. Je dis, mais quel est le message de l'évangile sur la puissance de la résurrection? La parole que Christ apporte à Marthe, c'est, crois-tu cela? En l'occurrence, devant le tombeau de Lazare, crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Et David dit, même si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Combien d'entre nous ont vécu cette expérience de s'être couché au séjour des morts? C'est avoir abandonné, dire, ben voilà, c'est terminé, je veux plus aller plus loin, c'est en raison des circonstances, de ce que j'ai vécu, etc. J'abandonne. Et pourtant, Dieu nous a rejoints dans ce séjour des morts. Et il nous a redonné la vie. Je vous assure, chers amis, que nous avons cette possibilité dans ce qui est mort en nous de vivre la résurrection. Et je vous poserai cette même question de Jésus à Marthe. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Je suis étonné dans les échanges que je peux avoir d'être confronté à cette affirmation catégorique. C'est fini. Ça ne sera plus. Et Christ nous dit toujours la même chose, je suis la résurrection, la vie. Crois-tu cela? Et si nous rentrons dans cette assurance, je vous assure que nous pouvons voir des pierres rouler et le mort sortir et la vie revenir dans ce que nous sommes. Crois-tu cela? La troisième partie de ce texte, c'est versets 13 à 18, je vais juste le survoler, c'est une partie qui est essentielle. Certains disent que c'est le verset 18, entre autres, qui serait le centre. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est le verset 14. « Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. » Cette troisième partie, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. C'est-à-dire une confrontation à ce Dieu qui est... Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre la... Une confrontation à ce Dieu qui est mon origine. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont des merveilles, etc. Mon corps n'était pas caché devant toi. C'est-à-dire que dès la première seconde de mon existence, de ma conception, Dieu a une conscience de celui que je suis. Quand je n'étais qu'une masse informe, Il faut que je retrouve parce que on est là devant un apax, hein, legomenon. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'avais dit une fois, un apax legomenon, c'est un mot ou une notion qui est là, présent une seule fois dans la Bible, mais dans d'autres écrits. Quand je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. J'espérais que quelqu'un soit présent ce matin, parce que quand je n'étais qu'une masse informe, en hébreu, c'est le golem. Ça vous dit quelque chose, ce mot-là ? Non ? Golem ? Le golem, c'est une invention, un récit mythologique fait par un rabbin, rabbin Lowe de Prague, au XVIe siècle. Le golem, on dit qu'il a été imaginé par lui et qu'il a créé cette histoire-là au XVIe siècle. Alors, il y en a un qui, parmi nous, va être un petit peu concerné par ça. C'est un personnage, donc le rabbin Lowe de Prague au XVIe siècle, qui aurait donné vie à une statue d'argile et qui a inscrit sur son front Amet, ce qui veut dire en hébreu vérité, A ou Emet. Avec pour mission de défendre la communauté juive qui était persécutée. Donc, Emet, ou Emet, vérité. Pour le tuer, il aurait fallu effacer la première lettre de Emet, en hébreu, le Aleph, parce que Met, ça veut dire mort. Donc, pour le tuer, il fallait effacer le Aleph. Et cet homme qui était muet, mystérieux, devint une célébrité à Prague, c'est l'histoire, hein. Mais un jour, le golem est devenu fou. Il a traversé la ville, il a semé la destruction, il s'est attaqué aux habitants. Et quand le rabbi Lowe fut prévenu de la panique qui régnait en ville, il cria au ciel « Golem, reste où tu es !» Et le golem s'est figé. Alors, Rabbi Lao ne pouvait plus effacer l'Aleph qui était sur son front. Alors, il a eu une idée. Il a demandé au golem de lacer ses chaussures. Et pendant qu'il se penchait pour lacer ses chaussures à lui, il a effacé la lettre de son front et le golem redevint de la terre glaise soumise à son créateur. C'est un récit. C'est devenu un récit un peu fantastique dans le monde judaïque, même au-delà. Et en fait, ce mot golem vient des « quand je n'étais qu'une masse informe, un tas de terre, tes yeux me voyaient ». Et ça renvoie aussi à Adam, qui était une masse informe. Il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie dans cette terre, Adama, et l'homme devint un être vivant. J'aime beaucoup cela, parce que ce récit-là, il faut effacer le Aleph, la première lettre. Le Aleph, ça correspond à la première lettre aussi de l'alphabet grec. C'est l'alpha. Et pour passer de la vérité à la mort, c'est le Aleph qui fait la différence, ou l'alpha. Je suis l'alpha et l'oméga. Voilà, j'extrapole un peu, hein, mais pour passer de la vérité, il faut que Ahmed devienne maître, que la vérité devienne la mort. Et en fait, quand il est dit dans ce psaume, quand je n'étais qu'une masse informe, je deviens vivant quand je deviens ou je suis rempli de la vérité de Christ. Mais je deviens mort dès lors que cette vérité s'efface de mon front, de mon esprit. Et il y a des domaines dans notre vie. J'aime beaucoup quand il y a quelqu'un qui prie, Christine pour la nommer, et qui insiste sur le fait que le salut, c'est pas simplement le pardon des péchés, c'est l'œuvre de résurrection et de vie que Dieu veut faire en nous, de transformation, de changement. Mais dès lors que nous refusons l'action de l'Esprit-Saint dans notre vie, c'est comme si nous effacions le Aleph d'Amet pour que ça reste mort. Oh, nous sommes sauvés. Mais ce qui en nous est appelé à venir à la vie, eh bien, reste mort. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous laisserai la quatrième partie qui est une partie un peu surprenante, hein, puisque c'est une partie qui parle où David dit, mais Seigneur, interviens auprès de ceux qui sont tes opposants, etc. Et puis, il est assez odieux, si seulement tu faisais mourir le méchant. Tout à coup, on se dit, oula, oulala, c'était bien joli jusque-là, mais alors faire mourir les méchants. Et en fait, c'est une partie qu'on retrouve beaucoup dans les psaumes, une partie où le croyant devient partie prenante du combat que Dieu mène contre l'adversaire et le péché. Le méchant, ce n'est pas tant l'homme que l'œuvre de l'adversaire qui vise à empêcher la vie de Dieu de se répandre. Si tu pouvais faire mourir le méchant, et puis c'est synthétisé autour des hommes de sang, de ceux qui finalement s'opposent à Dieu. Ce qui cristallise la colère de David, c'est l'opposant pour lui, c'est Absalom, c'est son fils. Il ne veut pas voir son fils mourir. Mais si ce qui est mauvais pouvait disparaître pour que Dieu règne. Moi, je vous invite à lire ce psaume 139 et puis peut-être à le lire cette semaine en ouvrant l'enveloppe que vous avez. Allez-y, prenez-la. Et je vous invite que cette lettre... Tout le monde en a une ou bien ? Oui ? D'accord. C'est une lettre venant de quelqu'un pas comme les autres. Ce ne sont que des versets. Que des versets. C'est que la parole, donc il n'y a pas de commentaire. Mais j'ai trouvé ce texte-là il y a une quinzaine d'années et j'ai toujours trouvé qu'il était très très beau. Et c'est une lettre que vous pouvez peut-être, étant tiré de l'Écriture, mettre dans votre Bible et quand vous dites « qu'est-ce que je pourrais lire qui me ferait du bien ?» Ben, lire cette lettre-là parce que ce ne sont que des versets qui s'adresse à chacun d'entre nous, à titre personnel, et que vous pouvez méditer un morceau ou la totalité. Imaginez vraiment, puisque c'est uniquement tiré de l'Écriture, que cette lettre vous est adressée. Je ne lis pas les références, simplement l'écrit. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds, quand tu te lèves, je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tu as été créé à mon image. Je suis le mouvement, la vie et l'être. Je te connaissais même avant que tu sois conçu. Je t'ai choisi au moment de la création. Tu n'es pas une erreur. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Je détermine la durée des temps et les bornes de tes demeures. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. J'ai été déformé par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. C'est mon amour de père que je répands sur toi, parce que tu es mon enfant et que je suis ton père. Je t'offre plus que ton père terrestre pourrait jamais te donner, car je suis le père parfait. Toute grâce que tu reçois vient de ma main. Car je suis celui qui subvient à tous tes besoins. Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance, parce que je t'aime d'un amour éternel. Mes pensées vers toi sont innombrables comme le sable sur le bord de la mer, et je me réjouis de tes louanges et de ton adoration. Je n'arrêterai jamais de te faire du bien. Tu es le peuple que j'ai choisi. Je désire t'établir avec tout mon cœur et toute mon âme. Il est en mon pouvoir de te montrer de grandes et merveilleuses choses. Si tu me cherches avec tout ton cœur, tu me trouveras. Fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Car c'est moi qui t'ai donné ces désirs. Je suis capable de faire plus pour toi que tu pourrais probablement imaginer. Car je suis ton encouragement le plus grand. Je suis aussi le Père qui te console dans tous tes ennuis. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. Comme un berger porte un agneau, je te porte près de mon cœur. J'effacerai toute larme de tes yeux et j'emporterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je suis ton Père et je t'aime de la même façon que j'aime mon fils Jésus. Car dans Jésus, mon amour pour toi est révélé. Il est la représentation exacte de mon être et il est venu pour démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et te dire que je ne compte pas tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi puissions être réconciliés. Sa mort est l'expression suprême de mon amour pour toi. J'ai renoncé à tout ce que j'aime pour gagner ton amour. Si tu acceptes mon fils Jésus, tu me reçois et rien ne te séparera de mon amour. Dans ma maison, il y a tant de joie dans le ciel devant la repentance d'un pécheur. J'ai toujours été le Père et serai toujours ton Père. Ma question est, veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Ton Père, Dieu Tout-Puissant qui t'aime. Amen. Je vous invite à garder ce texte-là, si vous le souhaitez, et à le mettre dans votre Bible ou à porter une main pour le lire simplement quand vous avez besoin de rencontrer Dieu. Amen.